Bonjour à tous, ça va bien ce matin?
Oui!
Gloire à Dieu, j'ai 67 ans aujourd'hui, voilà. L'année passée, on pensait que j'allais mourir, mais je suis toujours là. Gloire à Dieu, merci pour les prières, merci aussi aux chirurgiens, aux médecins, à tout le monde. C'est magnifique, magnifique. On vit dans une époque magnifique, ça dépend de quel côté de la planète on est. Hein. Et là, j'ai appris encore tout à l'heure que nous avons un frère qui s'appelle Moussa Kone, qui se trouve en prison à cause de sa foi. En Côte d'Ivoire, il faut prier pour lui, parce que voilà, c'est grave. C'est pas rigolo partout. C'est pas rigolo partout. Frères et sœurs, je voulais vous présenter encore une fois mon nouvel ami Morgan Priest. C'est pas lui qui m'a demandé, c'est moi qui lui ai demandé de faire la pub pour ses bouquins. C'est pas un type qui vient pour vendre, c'est moi qui lui ai dit, voilà, parle de tes bouquins. Merci Morgan.
Ouais, donc je voulais vous partager un peu, merci Michel, hein, partager mes livres. J'ai écrit 3 livres en l'espace de, le micro est là, ouais, en l'espace de, d'une année, donc j'ai pas chômé. Ça a été aussi un bon travail pour moi d'humilité que de me reclure un peu pour passer du temps dans l'écriture, et c'était aussi une première pour moi. J'avais jamais écrit de livre, donc je n'ai pas forcément des grands talents d'écrivain, et ce n'est pas vraiment le but en soi, surtout de pouvoir toucher des cœurs. Ça c'était mon premier livre, de sataniste à Jésus-Christ, donc ça en dit long, de satanisme. Donc je suis passé par diverses doctrines ésotériques, notamment et pas des moindres, la franc-maçonnerie. Donc c'est vrai que la franc-maçonnerie, c'est un sujet qui est très peu connu, mal connu, et c'est très vaste, la franc-maçonnerie, et je parle en tout cas de mon expérience, des liens que j'ai faits, et de comment j'en suis sorti. Et c'est je suis sorti de l'ésotérisme et de la franc-maçonnerie parce que j'ai été touché par Jésus, en fait. J'ai accepté son invitation. Et le personnage de Jésus était vraiment trop parfait, trop fort à mes yeux. Et je ne pouvais pas, je ne pouvais pas rester en franc-maçonnerie, dans l'ésotérisme, continuer comme je faisais, et devenir réellement chrétien. Voilà. Donc j'explique tout ça, j'entre dans des détails intimes de ma vie. Je raconte pas tout non plus, parce qu'il y aura encore, ça sera un catalogue, parce que c'est l'histoire de 36 ans de vie. Mais par contre, je raconte quand même des anecdotes qui permettent peut-être un peu mieux de me cerner et de comprendre de là où je viens. Et donc de comprendre aujourd'hui mon état d'esprit, pourquoi je suis comme ça, un peu bizarre. Donc parmi les thèses ufologiques, les thèses dans l'ésotérisme, l'ufologie à bon dos, hein, et donc j'ai écrit ce deuxième livre-là, OVNI et Bible, et j'ai repris toutes les thèses dans lesquelles moi je croyais, même à l'époque quand j'étais dans l'ufologie. J'étais tellement dedans, d'ailleurs, que je m'étais fait un crop circle tatoué au niveau de la nuque, parce que déjà je trouvais ça super esthétique. C'est vrai que les crop circles, les cercles de culture sont quand même vachement bien faits. Et puis je pensais que ça venait de civilisations extraterrestres. Et puis en écrivant ce livre-là, ça m'a obligé à faire un vrai travail vraiment de recherche très approfondi cette fois-ci, mais pas seulement dans le sens des ufologues cette fois-ci. Avec un avis, j'ai essayé d'être le plus objectif possible, en fait, et de faire, sans mauvais jeu de mots, l'avocat du diable. Essayer de voir toutes les pistes possibles et inimaginables, jusqu'à me rendre compte, en fait, que les crop circles, les cercles de culture dans les champs, n'ont rien à voir avec le phénomène extraterrestre, et qu'il ne fallait pas attendre après les extraterrestres, d'ailleurs, pour venir nous sauver. Et donc, je reprends, il y a beaucoup d'ufologues qui voient des ovnis, des extraterrestres dans la Bible. Et du coup, je reprends toutes leurs thèses que humblement je démonte dans ce livre-là. Et c'est un sujet qui est à la mode. Hein, ça fait le phénomène OVNI, il est assez récent finalement. Ça fait peut-être 50 ans à 70 ans qu'on en parle beaucoup. Et si on a beau chercher dans la littérature de tous les siècles possibles et inimaginables, il n'y a pas de livre sur les OVNI. C'est quelque chose qui nous touche nous, en fait. Et j'explique, selon ma thèse, qu'en fait, les ovnis, les objets volants non identifiés qu'on voit dans le ciel, viennent du monde spirituel, et que ce sont des vaisseaux qui proviennent d'anges, et d'anges de Dieu ou de Satan, et que j'explique que dans le monde spirituel, il y a une vraie activité, et qu'ils ne sont pas là en train de glander comme ça, hein, rien faire. Non, ils sont vraiment en activité, et il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous invitent à aller dans ce sens-là. Alors, je dis pas que j'ai la vérité, loin de là, mais en tout cas, c'est une théorie dans laquelle, personnellement, je crois. Voilà, après, chacun se fait son avis, et je n'en fais pas une vérité absolue, et voilà, quoi, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis. Quoi qu'il en soit, on voit par exemple qu'il y a un chariot de feu qui sépare Élisée du prophète Élie, et qu'ensuite Élie s'en va dans une tempête. Donc on voit bien qu'il y a des chariots de feu dans le monde spirituel. Donc qui dit chariot dit créativité, création, donc forcément évolution. Donc est-ce qu'ils sont restés au chariot, ou est-ce que c'est juste une apparition, une vision? Si par exemple Élie et Élisée avaient vu un ovni comme on en voit aujourd'hui là, des grosses soucoupes qui apparaissent, des trucs comme ça, est-ce que ça leur aurait parlé, et comment ils auraient défini ça aussi? Donc moi j'ai l'impression que Dieu aussi nous parle avec nos mots à nous, avec des visions personnelles à nous, de façon à ce qu'on puisse comprendre. Par exemple Élisée aussi, à un moment donné il voit le monde spirituel, il voit des chariots de feu avec des chevaux tout autour de lui, donc voilà, s'il y a des chariots, il y a forcément une créativité dans le monde spirituel. On voit par exemple l'archange Michael qui a combattu avec ses anges contre Satan et ses anges. Bon, bah, avec quoi ils ont combattu, quoi, avec des cure-dents, je pense pas. On représente souvent l'archange Michael habillé à façon romaine, parce que ça, voilà, ces icônes représentent, sont liées à l'Empire romain. Mais on ne sait pas réellement comment il est, comment ils sont, et si ça se trouve, si on avait des anges guerriers comme ça devant nous, on serait peut-être très étonné, voire on aurait la peur de notre vie, et peut-être même qu'on croirait que c'est des démons, tellement ils sont peut-être sophistiqués et particuliers et étonnants. Donc je ne pense pas qu'on ait un Dieu lisse et uniforme, je pense que Dieu est capable d'excentricité bien plus inimaginable que nous-mêmes on s'auto-formate dans nos petites têtes, dans les assemblées, quoi. Donc voilà, c'est un livre dont je suis fier aussi, mon père est dans l'ufologie, et je l'ai écrit deuxièmement aussi pour lui, pour reprendre toutes ses thèses et les démonter, notamment aussi, on voit il y a des vieux tableaux où il y a des ovnis dans des coins, etc., où j'explique exactement ce que c'est, et ce ne sont absolument pas des ovnis, ce sont juste des représentations du divin, du Saint-Esprit, des choses comme ça, et donc j'entre dans plein de détails, je parle des géants aussi, des Néphilim. Je parle des lignes de Nazca, je parle des pyramides, je parle d'un paquet de trucs, et je parle aussi, pendant plus de 60 pages, de la technologie humaine. J'explique qu'on a vite fait de crier à l'extraterrestre, mais on ne sait même pas la technologie qu'on possède nous, et ce que l'armée possède. Et croyez-moi, ça laisse à réfléchir. Quand on sait ce qu'ils ont, ça peut même faire peur sur notre avenir. Je pense que cette technologie-là servira évidemment pour la Troisième Guerre mondiale à venir. À mon avis, je crois qu'on va droit à une Troisième Guerre mondiale. Je pense pas être pessimiste ou négatif, voilà, je pense que c'est surtout réaliste. Il est évident que le monde ne peut pas durer comme ça encore 150 ans. Ça m'étonnerait fortement. Voilà, puis l'histoire se répète. L'histoire, c'est des guerres, un peu de paix, puis une guerre, etc. Donc, je vois pas pourquoi nous, on n'y aurait pas le droit. Surtout avec la technologie, les bombes nucléaires, et j'en passe. Il est évident qu'à un moment donné, quand ça va péter, ça sera la pire des guerres. Parce que c'est vrai qu'il y a encore la Deuxième Guerre mondiale, c'était déjà violent. Mais alors, celle qui vient sera infiniment plus violent à cause de l'armement qui n'a jamais été tel. Et ça, c'est mon troisième livre. Alors là, je l'ai écrit, bien sûr, pour l'Église. C'est toujours édifiant de voir, d'être rassuré sur la divinité de Jésus et d'avoir toujours plus de révélations. Donc, je parle du personnage de Melchizedek, je parle du personnage de la Trinité, du Père, Fils, Saint-Esprit. Je réponds aux questions, mais alors pourquoi Jésus prie le Père s'il est Dieu? Il se parle à lui-même. Donc je réponds en fait à beaucoup de questionnements de témoins de Jéhovah, de musulmans, d'athées, de gnostiques, etc. Donc c'est un livre qui est donc édificatoire pour l'Église, mais aussi qui est destiné à évangéliser. Donc si vous avez, si vous connaissez des gens qui ont du mal avec la divinité de Jésus, c'est un livre qui peut vraiment faire la différence. J'ai eu beaucoup d'attaques de l'adversaire à cause de la sortie de ce livre-là aussi. Et j'en suis évidemment très fier, parce que je l'ai écrit avec mon cœur. Et à la fin, j'ai mis l'Évangile de Jean, édition Louis II, 1910. parce que c'est l'évangile dans lequel on parle le plus de la divinité de Jésus, à mes yeux. Pourquoi Jésus est Dieu, c'est un livre en soi qui permet d'être sanitaire, quoi. Voilà. Donc, ça c'est mes trois livres que vous pouvez retrouver sur Amazon, ou ici même d'ailleurs, j'en ai quelques-uns, mais principalement sur Amazon. Et voilà, je ne passe pas par les gros réseaux, la Fnac, Virgin ou je ne sais quoi, parce que je suis un prédicateur très très indépendant. Je tiens à garder cette indépendance-là. Et voilà, c'est important pour moi de ne pas avoir un joug derrière.
J'ai tout dit. Hein.
J'ai
merci.
Tout dit.
Ouais, ouais. Merci beaucoup.
Merci Michel de me donner l'opportunité.
C'est bien. C'est bien que tu sois venu aussi pour mon anniversaire. C'est gentil. Enfin, deux beaux cadeaux. Il m'a offert aussi vous savez, ces plaques qu'on met derrière les téléphones pour protéger contre les mauvais esprits. Contre les mauvaises ondes. C'est très intéressant. Ça, c'est un truc auquel je crois depuis longtemps. J'en ai dans ma voiture et tout, mais là, il m'en est offert pour mon téléphone et je suis très content. Merci Morgane, Dieu te bénisse. Voilà. Rappelez, il y a un an, quand on a été, enfin plus d'un an, maintenant, ça fait. Je dis, c'est fini, je me fais plus d'amis, je veux plus d'amis. Ben voilà, j'ai un nouvel ami. Donc, faites pas confiance à ce qu'un homme peut dire. Faut faire confiance seulement à Dieu. Ok, on chante plus, on arrête de chanter. D'accord, on va passer à la parole de Dieu maintenant. Ça va? Vous êtes content? On va faire une lecture dans 1 Jean 3, mais seulement le verset 1 et 2. Je le prends dans la version Parole vivante de notre frère Alfred Kuhn, que j'aime bien. Enfin, j'aime bien les anciennes versions, maintenant la nouvelle est un peu différente. Voyez combien le Père nous aime, il veut que nous soyons appelés enfants de Dieu. Plus que cela, nous le sommes. Mais voilà pourquoi le monde ne nous comprend pas et refuse de nous reconnaître. Il n'a pas non plus reconnu Christ. Oui, mes chers, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé ou manifesté. Amen. Alors, ce que je vais commencer par dire des trucs qui vont vous apparaître des véritables lapalissades. Nous n'existons que parce que nous sommes en relation avec le tout. Dans nos relations humaines, dans nos relations avec la famille, dans notre relation avec Dieu, on est en relation. Pensez-y un moment. Qu'est-ce que vous seriez si vous n'étiez pas le fils d'eux ? Morgane vient nous parler de son père. On a des racines. Qu'est-ce que vous seriez si vous n'étiez pas le mari d'eux, ou la femme d'eux, ou le père, ou le fils, ou le Saint-Esprit ? Si vous n'étiez... On est tous rattachés, n'est-ce pas ? On fait partie d'un tout. Si vous n'intéressiez pas, par exemple, à la politique en ce moment, c'est un petit peu difficile de ne pas s'y intéresser, on nous bombarde avec tout ça. Si vous vous intéressiez pas au monde économique, à ce qui se produit dans les milieux religieux, dans la société, c'est parce que nous avons des relations que nous avons un environnement qui nous est personnel. En tant que chrétiens, nous avons une relation avec Dieu, notre Père Céleste, et Jésus-Christ, et le Saint-Esprit. Vous voyez, je ne suis pas trinitaire dans le sens du mot Trinité. Notre frère Morgane a parlé du mot Trinité. Je crois que ça fait au moins 20 ans que ce mot n'a pas été prononcé sur notre site. Mais on pense la même chose. Ce n'est pas qu'il y a trois dieux. Il y a un Dieu. Je crois et nous sommes en relation avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Et nous sommes aussi en relation avec le corps de Christ. On pourrait dire, voilà, ça fait quatre maintenant. Et puis avec le monde aussi, on est en relation avec le monde, et il est évident pour nous que ce que nous sommes, ça n'est qu'une différenciation de ce que Dieu est. Il faut réfléchir à ça. Parce que nous sommes membres du corps de Christ, membres de cet être divin qui éclaire toute personne, qui vient dans ce monde, et ce qui constitue notre être et notre esprit se compose de notre type de relation, de rattachement avec le tout. Si vous avez si vous êtes bas de plafond, ben voilà, vous avez un type de relation, vous avez un type de comportement, vous avez, et vous êtes constitué d'une certaine manière, voilà, et tout le monde n'est pas pareil. Nous sommes membres du corps de Christ. Si vous êtes intellectuel, mais que vous manquez de spiritualité, voilà, c'est encore différent. Il y a toute une multitude. Il n'y a pas deux personnes qui sont pareilles sur cette terre. C'est mon ami Charef qui dit toujours, si je trouve un deuxième Michel Janton, je le tue, parce que un, ça suffit. Nous ne sommes pas indépendants de Dieu, le créateur de tout. Parce que nous sommes une partie de ce tout. Nous ne sommes donc pas indépendants de tout. C'est-à-dire que si nous sommes indépendants de tout, nous sommes indépendants de rien. C'est un non-sens. Maintenant, nous ne permettons pas à certaines autorités de prendre possession de notre être, de l'être que nous sommes, parce que nous avons des possibilités de choisir. Alors qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, nous avons une influence et nous subissons des influences, d'accord ? Je suis né exactement il y a 67 ans. Ça fera dans un quart d'heure, je suis né à midi, mon père disait c'est pour ça, ça sera un flemmard, un dimanche en plus, à midi, juste le moment de mettre les pieds sur la table, tout de suite il a jugé que je serais un flemmard. Et je vous assure que depuis que j'ai pris conscience d'être, je remarque qu'il y a un changement qui s'opère chez les gens dans notre société, dans la façon de penser des gens de ce monde, mais aussi dans l'Église. Ce changement, il transpire silencieusement même parmi nous, et c'est ça qui constitue le changement le plus important que le monde ait connu depuis son début. Ça s'accélère. Ce changement s'installe de plus en plus vite. La révolution actuelle qui se produit dans les opinions de toutes les classes d'hommes et de femmes, ça va du plus cultivé au plus simple, c'est inégalé dans l'histoire de ce monde. Vous pouvez lire, vous pouvez chercher dans l'histoire, c'est inégalé. La science, aujourd'hui, a fait de telles découvertes qu'elle a dévoilé des énormes possibilités et des forces insoupçonnées. Aujourd'hui, il n'y a plus de savants sérieux, honnêtes, qui osent affirmer d'une façon certaine que toutes les théories sont établies. Ils se rendent compte qu'ils sont sur le bord d'un océan de connaissances et de théories qui auraient passé pour idiotes, absurdes et impossibles il y a encore 20 ans. Les choses ont terriblement bougé, mes frères et sœurs. Une nouvelle civilisation est sur le point de naître. Les coutumes, les credos et toutes ces choses-là doivent faire place à autre chose. À autre chose. À quoi ? À la manifestation des fils et des filles de Dieu. Voilà à quoi nous allons. Alors, confusément, les habitants de la terre, les terriens, comme je dis souvent, pressentent que quelque chose va changer, mais ils ne savent pas quoi. Nous savons quoi. Les valeurs s'écroulent, l'insécurité fait peur, en fait, tout fait peur. Donc, vous n'avez qu'à regarder l'émission envoyée spéciale de la semaine passée, vous regardez ça en streaming, c'est effrayant ce qui se passe dans ce monde. Heureusement, après, il y a Patrick Sébastien pour nous faire oublier, hein. Non, mais ça, c'est comme ça dans le monde. On s'étourdit avec des bêtises parce qu'on ne veut pas trop savoir de ce qui se passe, parce que c'est effrayant. Mais nous ne sommes pas effrayés parce que nous savons ce qui est en train de se tramer. Nous savons que c'est Dieu qui est aux commandes. Nous savons ce qui se trame. Nous savons, par les prophéties bibliques, que nous sommes arrivés à la fin du temps des nations, c'est-à-dire cette fameuse mondialisation. Hier, on parlait avec Morgane et je disais, bien sûr, on la refuse, cette mondialisation, parce qu'on sait que c'est pas, c'est le lit de l'Antichrist, mais on peut pas l'empêcher. Prier pour que ça se passe pas, c'est retarder l'œuvre de Dieu. Il nous est dit, racheter le temps, au contraire. Donc, faudrait même presque prier pour que ça vienne plus vite. et
Et ça, cette mondialisation, c'est ce qui peut arriver de mieux pour ce pauvre monde incrédule. Être unis sous la direction d'un gouvernement mondial, efficace, protecteur, eh ben, ils vont l'avoir. Ils vont l'avoir, ils vont y goûter, ils vont voir ce que c'est. Ça se met en place. L'homme providentiel, il est déjà né, il va se manifester. Il n'y a pas que lui qui va se manifester. Mais lui va se manifester. Nous aussi, bientôt, on va être manifestés. Mais ce n'est pas nous qui allons nous manifester, c'est Dieu qui va nous manifester. C'est autre chose. Mais là aussi, c'est Dieu qui va le manifester, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous allez contre? Nous le savons. Et ça ne nous fait pas peur du tout. Seuls les chrétiens mal affermis ont peur de ça. Cet homme providentiel va régner 7 ans sur la terre, on le sait par les Écritures, et les fidèles à Jésus-Christ, ceux qui auront obéi à l'Évangile que Dieu est en train de rétablir, eh bien, ceux-là ne seront plus là. Ils seront plus là. Nous ne serons plus là. Mais ça ne va pas changer grand-chose dans ce pauvre monde. Quelques chrétiens qui disparaissent, bouf. Il faut savoir qu'il y a en France entre 40 000 et 50 000 personnes chaque année qui disparaissent. Alors que quelques vrais et authentiques chrétiens, frères et sœurs dans le Seigneur, disparaissent, mais ça ne va pas faire la une des journaux. Ça, je sais que c'est pas tellement populaire dans les églises, parce que ils ont un esprit de vengeance. Ils voudraient que ça soit un choc terrible. Des avions tombent parce que le pilote de l'avion était chrétien, que ce soit des catastrophes. Mais ça sera très discret. Ils s'en apercevront même pas. L'immense majorité des chrétiens qui resteront, par contre, eux, ils vont flipper à un maximum parce que eux, ils sont au courant. Pourquoi? Parce qu'ils ont lu la Bible, parce qu'ils ont écouté les prédicateurs inspirés. Et qu'est-ce qui va se passer avec eux? Ils vont passer pour des dingos quand ils raconteront que leur mamie et leur tonton allaient partir au ciel avec Jésus. C'est tout. Certains diront que c'est des extraterrestres qu'ils ont enlevés dans les... Mais c'est pas de ça dont je veux vous parler ce matin. Je veux vous dire que bientôt, les fils et les filles de Dieu vont être manifestés. Nous allons donc manifester la puissance de Dieu comme jamais avant. Et cela juste quelque temps avant l'enlèvement. Mais juste quelque temps avant l'enlèvement. La science physique a réduit la matière en molécules, les molécules en atomes et les atomes en énergie. Et nous allons manifester ce que c'est que l'énergie. C'est-à-dire nous allons manifester ce que c'est que la vie. Parce que les gens croient qu'ils vivent, ils ne vivent pas, ils existent. Même des chrétiens, ils ne vivent pas, ils existent, mais ils ne vivent pas. Mais celui qui vit en nous par son esprit, la Bible nous dit que c'est sa puissance. Elle est où cette puissance? Cette puissance, elle est encore voilée, mes frères et sœurs. Elle est cachée dans notre chair, elle est voilée. Notre corps lui sert de voile. Mais bientôt, Dieu va dévoiler ça. Dieu va dévoiler ça. Il va se montrer comme il s'est montré quand Jésus est venu sur la terre. Rappelez-vous quand Jésus est venu sur la terre. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et un jour vient où nous allons pouvoir dire en esprit et en vérité, réellement, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que l'épouse commence à devenir, à atteindre sa stature parfaite. Comme il est dit dans Éphésiens, nous devons atteindre cette stature parfaite. On peut l'atteindre d'une façon personnelle, mais là, ça sera l'épouse elle-même, l'ensemble du corps de Christ qui aura atteint cette stature parfaite de Christ et qui va la manifester dans un temps très court. Le temps vient où nous pourrons vraiment le démontrer, pas seulement le dire, mais le démontrer comme lui le démontrait. Vous croyez ça? Comment est-ce que ça se fera? Eh bien, c'est déjà en train de se faire parce que son corps est en train d'atteindre cette stature parfaite. L'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est l'Esprit suprême. Il est imminent dans la matière. Il n'y a pas un endroit où il n'est pas. Il n'est pas les choses, mais il est dans les choses. Il est imminent dans la matière. Il est l'Esprit qui soutient, l'Esprit qui énergise, l'Esprit qui pénètre tout, l'Esprit dans tout l'univers. Tout à l'heure, Morgan me disait, c'est quoi l'univers? C'est une question pour rigoler. Qu'est-ce que j'allais vous dire, qu'est-ce que c'est l'univers? chaque entité vivante doit être soutenue par cette intelligence omniprésente qui est où ? En nous en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas ailleurs, mais d'une façon tout à fait particulière, Dieu se voile dans notre chair. Constatez, regardez autour de vous, cherchez ces choses. Toutes les différences entre les formes de vie distinctes se mesurent, on peut mesurer. En grande partie, elles se mesurent par le degré de manifestation de l'intelligence. De l'intelligence. Cette intelligence qui place l'animal sur un échelon supérieur à la plante et qui place l'homme au-dessus de l'animal, quoique. La viande. Notre travail spirituel, c'est quoi notre travail spirituel ? De rechercher quand c'est la date du retour de Jésus ? Non. Notre travail spirituel aujourd'hui, à la veille de l'enlèvement de l'épouse, consiste à nous ajuster. À nous ajuster, mes frères et sœurs. Dans le mot ajuster, il y a le mot juste. À nous ajuster par le pouvoir du Saint-Esprit qui est en nous. Nous devons nous ajuster pour contrôler nos modes d'action. Afin d'être adaptés lorsque nous allons être manifestés. Parce que si nous ne sommes pas déjà ajustés, quand nous allons être manifestés, on va être bancal. Il ne faut pas s'imaginer que si vous êtes comme ça, complètement dingo dans votre vie maintenant, et que quand Jésus va revenir, il va vous changer, que vous allez être super intelligent, c'est faux. C'est maintenant qu'on apprend, c'est maintenant. Ce n'est pas une question d'avoir ou de ne pas avoir la bonne doctrine. C'est une question d'être vivant par l'Esprit de Dieu ou pas. C'est ça. Alors, nous avons à reconnaître l'ordre qui existe en Dieu. Pourquoi je dis que nous avons à le reconnaître ? Parce que rien ne pourra être fait par vous si d'abord vous n'obéissez pas aux règles simples, aux ordonnances simples que Jésus-Christ nous donne. Ces règles simples, ces ordonnances simples sont des mises à l'épreuve pour voir ce que nous valons, si nous sommes des rebelles ou pas. Quand nous prions, Dieu n'est pas en train de nous obéir en nous exaucant, pas du tout. C'est à nous d'être suffisamment obéissants et en contact avec lui pour entrer dans l'harmonie divine, dans la volonté de Dieu, pour faire la prière qui doit justement se manifester comme un miracle. Ça inverse beaucoup les choses. On n'est pas des mendiants. Mais plus nous élevons notre esprit dans son esprit, plus nous avons de chances d'être exaucés parce que nous demandons les choses selon sa volonté. Si on ne demande pas selon sa volonté, ça ne se fait pas. Regardez à quoi tient les progrès de la science. Il y a un parallèle. Ça tient à la reconnaissance des lois naturelles, mes frères et sœurs. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on peut faire voler des avions qui pèsent des tonnes. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on peut faire flotter du fer sur l'eau, les bateaux, ces énormes bateaux qui pèsent des tonnes et des tonnes et des tonnes, puis ça flotte. J'ai rencontré des chrétiens africains qui m'ont dit « Oui, mais c'est des esprits qui soutiennent tout ça. » C'est la reconnaissance des lois naturelles qui font que nous arrivons à faire des choses aussi extraordinaires que celles-là. Ce sera de même pour ce qui est de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Nous devons reconnaître maintenant les lois surnaturelles, les lois spirituelles, afin de manifester pleinement et à tous les coups ce que Jésus manifestait sur la terre, comme lui le faisait. Il ratait jamais son coup, hein. Dieu veut nous exaucer, mais pas si nous n'obéissons pas aux règles spirituelles. Pas si nous ne sommes pas dans l'ordre des choses. Heureusement, parce que sinon, si toutes les prières de tous ceux qui croyaient en Jésus devaient être exaucées, ben on serait tous crevés, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ne nous aiment pas. Dimanche passé, je vous parlais de visualiser, de penser. Pourquoi ? Parce que notre pensée, elle est créatrice, parce que nous sommes faits à l'image de Dieu et Dieu vit en nous, notre pensée est créatrice. Le principe sur lequel repose cette loi est absolument sain et légitime. Que d'autres, que des païens s'en servent, ça les regarde, ça ne m'intéresse pas ce qu'ils font. C'est inhérent à la nature des choses, ce principe. Mais il faut encore croire que ce pouvoir vit en vous. Beaucoup de gens ne croient pas ça. Ce pouvoir, il est celui de Dieu, ça n'est pas votre pouvoir, c'est le pouvoir de Dieu qui est la source, qui est le fondement de toute énergie et de toute substance, il est en vous. Nous, ses fils et ses filles, nous sommes les canaux de distribution de cette énergie, de cette vie, ici-bas, dans cette création, dans cette condition mortelle. Est-ce que vous savez ce que vous êtes ? Mais est-ce que vous savez ce que vous êtes ? Il dit, Dieu veut nous appeler ses enfants, et nous le sommes. Il est obligé de leur dire, parce qu'ils n'y croient pas vraiment. Parce que si on y croyait vraiment, mais ça changerait beaucoup de choses. Nous sommes le moyen par lequel Dieu produit les diverses combinaisons qui résultent de la formation des phénomènes, c'est-à-dire que les phénomènes se produisent parce que nous sommes les canaux de Dieu qui permettent les diverses combinaisons pour que ça arrive. Mais il faut être conscient de ça, c'est-à-dire ces miracles et toutes ces choses étranges qui nous suivent, ça obéit à des lois, c'est pas par hasard. Votre pensée, alors évidemment on prie pour tout le monde, des fois ça marche pas, mais parce que il y a toutes sortes de choses qui font qu'il faut se mettre d'accord. Jésus dit bien, mettez-vous d'accord là où deux ou trois sont d'accord ensemble. Mais d'accord, c'est pas, tu veux être guéri, oui, ah ben moi je suis d'accord, il faut aussi que tu sois guéri, alors je vais prier pour toi pour que tu sois guéri, puis on est d'accord, alors au nom de Jésus sois guéri. C'est pas ça, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, ça c'est du bricolage de faire ça. On n'a pas à bricoler, on n'est pas des bricoleurs de Dieu. Notre pensée, c'est le lien invisible qui nous permet d'entrer en communication avec Dieu. C'est notre pensée invisible qui nous permet de faire entrer dans le visible des choses qui n'existent pas encore. Mais c'est par notre pensée. C'est le moyen pour atteindre Dieu. Quand nous entrons dans la présence de Dieu en pensée, alors il peut y avoir une communication et Dieu peut nous communiquer sa pensée, la pensée de Dieu. L'apôtre Paul dit, est-ce que c'était un hypnotiseur ? J'amène toute pensée captive à Jésus-Christ. Quelqu'un qui ne sait pas qu'à cette heure-là je prêche. C'est mon petit frère. Eric. Vous savez, il y a des choses que certains ne comprendront jamais. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne compréhension. Regardez toujours dans le domaine de la science. Avec un appareil approprié, on peut regarder des mondes qui sont situés à des milliers d'années-lumière que notre œil ne peut pas voir. Mais il faut l'appareil approprié. Et bien de même, doté de la compréhension appropriée, l'homme peut communiquer avec le Père Céleste par l'Esprit qui est en lui. Mais il faut la compréhension appropriée. Le problème des croyants, c'est qu'ils ont souvent un type de compréhension qui est aussi valable qu'un lecteur de DVD sans DVD. Ça vous parle, ça ? Ils ont un type de compréhension qui est aussi valable qu'un lecteur de DVD sans DVD. C'est-à-dire que ça ne sert à rien du tout. Leur croyance, c'est une croyance. Ils sont croyants, t'es croyant, je suis croyant. Ils sont croyants, mais ça ne sert à rien du tout. C'est rien. On ne devrait pas dire je suis croyant, on veut dire je suis rien. Parce que ça ne sert à rien. Ils ne servent à rien. Ouais, peut-être qu'ils se saoulent plus la gueule. Ouais, peut-être que maintenant ils payent leurs impôts. Ouais, peut-être maintenant ils sont gentils avec la boulangère. Oui, mais il y a plein de païens aussi comme ça. En tant que serviteur de Dieu, je peux dire que la seule croyance qui a de la valeur, c'est celle qui est essayée, qui est mise à l'essai, et qui se révèle être un fait. Nous devons mettre à l'épreuve la parole de Dieu pour voir si ça marche. Pourquoi maintenant, dans les églises, de plus en plus, on voit de moins en moins de miracles ? Mais parce que justement, les pasteurs n'osent plus essayer. Cette sorte de croyance-là, ça c'est la foi qui transforme les choses en réalité vivante. C'est pas simplement la foi, je crois, oui, je crois. Le reste c'est de la bouillie pour chat avarié. C'est vrai mes frères et sœurs, c'est un peu dur mais c'est vrai. C'est mon anniversaire aujourd'hui, je me fais un cadeau. Je vous dis des choses un peu dures. Ce que je vous dis là, c'est une croyance qui est mise à l'épreuve par des milliers de chrétiens. Si vous ne cherchez pas à progresser dans votre compréhension des lois spirituelles, vous ne progresserez en rien. En rien. Vous serez toujours au siècle où on regardait les étoiles avec les simples yeux. Oh, c'est beau. Oui, mais maintenant, avec les machines qu'ils ont, on peut voir encore beaucoup plus loin. Écoutez bien ça. Quand Jésus dit que celui qui donne, il reçoit, il ne parle pas que de pognon. Afin de croître, nous devons obtenir ce qui est essentiel à notre croissance, n'est-ce pas? C'est comme pour les plantes, c'est comme pour tout. Mais comme nous formons à tout moment, sans arrêt, une entité complète de pensée, ça c'est ce que nous formons, cette complétude nous permet de ne recevoir que selon ce qu'on donne. C'est-à-dire, il faut que ça sorte pour que quelque chose puisse entrer parce que la nature que Dieu a créée a horreur du vide. Pas compris ça. On garde tout. On donne rien. Toute croissance est donc conditionnée à une action réciproque. Vous faites partie d'un tout, comme je disais. Regardez dans la nature ce qui se ressemble, s'assemble, etc., etc. Et ce que nous sommes maintenant nous conduit à ressembler à Dieu, à notre Créateur. Est-ce que c'est pas ça notre but suprême? On a un très beau chant là-dessus, te ressembler Jésus. Hein? C'est pas seulement un chant, c'est notre quête, c'est notre Saint Graal. Et on a des progrès à faire. Ça n'est pas acquis parce qu'un jour on était trempé dans l'eau ou parce qu'un jour on a parlé en langue. Ça n'est pas acquis. Nous avons des progrès à faire. Ce que nous sommes n'est pas encore manifesté à l'échelle planétaire. Nous le sommes déjà, mais ce n'est pas encore manifesté. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas encore vraiment totalement, en tant que corps de Christ, atteint cette stature parfaite. C'est en train de le devenir, mais ça n'est pas encore. Il faut que le corps de Christ atteigne cette stature parfaite. Et il ne faut pas que vous attendiez que ce soit les autres qui commencent. Il faut que nous fassions ça d'une façon tout à fait personnelle, parce que, étant partie d'un tout, nous allons contaminer les autres avec cette forme-là. Alors faites-le progresser vous-même. La richesse qui est la vôtre va se révéler au monde. Chacun va être révélé. Le blé va être révélé comme étant du blé, et l'ivraie va être révélé comme étant de l'ivraie. Le jour approche. On dit tout le temps, ah oh, Jésus revient, c'est quand la date, 15 septembre, le 27 août, ou je ne sais quoi. Mais ça sert à rien, c'est une perte de temps, c'est de la masturbation spirituelle, ça sert à rien du tout. Le blé et l'ivraie sont presque mûrs. Vous êtes quoi? C'est ça qui est important. C'est pas ce qui vous traverse les pensées qui fait que vous êtes bon ou méchant, c'est ce que vous manifestez. C'est ça qui fait ce que vous êtes. Si votre cœur est à l'ouvrage selon les règles de Dieu, vous pouvez être certain d'atteindre ce que Dieu attend de vous. Sinon, vous avez des doctrines. Et puis vous vous chicanez à coup de doctrine. L'Esprit de Dieu peut tout. Il vit en vous, mais ce pouvoir, cette puissance qui est en vous, elle repose sur votre conscience de ce pouvoir, de cette puissance, sur votre conscience. Si vous n'utilisez pas ce pouvoir, vous le perdez. Vous le perdez. Et si vous n'êtes pas conscient, vous ne pouvez pas l'utiliser. Il faut que vous soyez conscient et que vous l'utilisiez. Vous voyez, l'utilisation de cette puissance, elle dépend donc de votre attention, d'être attentif. Écoutez bien ça, ça va vous apparaître comme de la palissade, mais c'est la réalité. Le stimulant de votre attention, c'est votre intérêt, l'intérêt que vous avez pour les choses, pour les gens, pour la nature, etc. Vous vous intéressez à quoi? Plus votre intérêt est élevé, digne de louange, honorable, plus votre attention est importante aux yeux de Dieu. Et plus votre attention est importante aux yeux de Dieu, plus vos actions sont élevées, honorables et dignes de louange, alors que nous sommes sur le point de bientôt être manifestés, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Que dois-je faire pour être prêt? Eh bien, il faut commencer par prêter attention. Regardez autour de vous. Voyez les besoins. Regardez autour de vous. Si vous le faites, bientôt, il y a des intérêts en vous qui vont s'éveiller. Et cet intérêt que vous allez avoir vous attirera plus d'attention. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas simplement dans votre corps, mais qu'il y a autre chose à l'extérieur, et qu'il y a des choses encore plus loin et encore plus loin. Jésus nous a donné le monde, aller dans tout le monde. Pourquoi prier pour savoir où on doit aller? On doit aller dans le monde, il est grand, allons-y. Et cet intérêt, il va attirer plus d'attention, et cette attention produira encore plus d'intérêt, et vous allez être intéressant. C'est-à-dire que des gens vont trouver un intérêt à vous connaître parce que vous manifestez un pouvoir de l'amour, de miracle, de bonté, d'inspiration, de toutes sortes. Mes frères et sœurs, il n'y a rien de plus ennuyeux qu'une croyance qui n'a pas de base logique. Laissez votre pensée demeurer sur le fait que bientôt les vrais enfants de Dieu vont être révélés au monde. Laissez votre pensée demeurer sur ça. Et il faut que vous fassiez partie de ce groupe-là qui va être manifesté au monde en tant que fils de Dieu. Pensez-y, c'est plus important que tout, parce que c'est ce qui est en train de se tramer, c'est ce qui est en train de se préparer. Dans le ciel, c'est ça qui est en train de se préparer, c'est votre manifestation. Ensemencez votre pensée avec ces graines que je vous donne aujourd'hui, que bientôt nous allons être manifestés tels que nous sommes, c'est-à-dire tels qu'il est haut. Oh. Fils de Dieu, fille de Dieu, manifesté, pas seulement une personne qui croit certains trucs au sujet de Dieu, mais Dieu manifesté dans la chair, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'entend entend le Père. Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, c'est mon Père qui m'a envoyé. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Un disciple de Jésus, c'est une chose anormale sur cette terre. Nous sommes une nouvelle création au milieu d'une ancienne création déchue. On est un truc anormal. Vous devez vous employer à analyser votre étrangeté. Vous devez passer du temps à analyser votre étrange situation en communauté. C'est-à-dire dans l'Église de Jésus-Christ qu'il est en train de rétablir. Les liens d'amour qui nous unissent, elles consolident l'étrangeté de notre condition mortelle d'enfant de Dieu, de passage, étrange, étranger sur cette terre. Parce que notre condition, elle est étrange, nous sommes étrangers, pèlerins même, sur cette terre créée par notre propre Père Céleste. Ici-bas, nous sommes chez nous plus que quiconque. Mais on agit comment ? Nous devons prendre conscience de ces choses profondes. Nous devons prendre conscience de ça. Notre communion fraternelle, elle est vitale pour pouvoir atteindre un seul but urgent, le seul but urgent. Progresser, évoluer, ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. C'est ça notre but. C'est cela qui domine, qui doit dominer nos préoccupations. C'est cela qui donne un sens à tout le reste. Sinon, ça n'a pas de sens, c'est idiot. C'est vain. Puis c'est moche. Notre avenir, il est riche en possibilités, plein d'ouvertures. On a tout à gagner à se mouiller dans cette affaire. Notre tâche, elle consiste donc à tout mettre en œuvre pour progresser, pour grandir, afin d'être manifesté au monde d'une façon parfaite, comme il était parfait. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. C'est des défis que Jésus nous lance. Il faut les relever. Il ne faut pas en faire simplement une doctrine, un machin, avec lequel on peut parler dans les salons. Frères et sœurs, ne vous compliquez pas la vie avec des choses et avec des gens qui ne sont pas essentiels à votre progression. Ne vous cassez pas la tête. Next. N'oubliez pas qui vous êtes. Un peuple de sacrificateurs, de prêtres pour Dieu. Vous êtes hors normes. Vous êtes des personnes particulières. Vous devez en prendre conscience. Vous n'avez pas à vous conformer au siècle présent où il habite. Vous n'avez pas à être conforme à la majorité. Vous n'avez pas à être conforme à la moyenne. Non. Vous êtes des fils de Dieu. Pas encore manifestés, mais vous êtes déjà des fils et des filles de Dieu. Vous l'êtes. Prenez-en conscience. Faites grandir ça en vous. Faites sortir ça de vous. En ces derniers temps, nous avons à nous entraîner à vivre selon Dieu, à coordonner nos pensées et les siennes, à maîtriser nos humeurs. Nous avons à nous initier à la pratique de la volonté écrite et révélée actuellement. C'est une initiation. Ce mot fait peur, ça fait penser à des sectes, ça fait penser à du satanisme. Je m'en fous ce mot-là, mais ni satanisme, ni rien du tout. C'est un mot qui signifie une chose précise. Vous savez pas ce que ça signifie? Allez dans votre dictionnaire. Nous sommes des initiés. Ou pas. Nous avons quotidiennement à améliorer nos résultats dans la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut chercher qu'est-ce que tu veux afin de pouvoir avoir toujours des prières exaucées. Pas prier en l'air. Nous n'avons pas à vivre comme le monde qui se passionne pour des choses banales. Le monde regarde les chrétiens comme s'ils étaient des êtres moyenâgeux, mais malheureusement, ils ont souvent raison. Ils ont souvent raison. Nous, au contraire, on doit rire de la déraison de ceux qui s'intéressent à ce qui n'a aucun intérêt. Alors hier soir, par exemple, on a regardé un truc rigolo. Est-ce que c'est pas bien? Si, c'est bien. Parce que de temps en temps, il faut rigoler. C'est important de rigoler. Il y a un intérêt. Ça fait soulever, ça fait soulever la soupape et ça fait sortir des tas de tensions. Dieu nous a créés avec le rire. J'adore mon chien, mais il rit jamais. C'est le propre de l'homme. Faut rigoler aussi, avant que ça nous tombe sur la tête. Riez de la déraison de ceux qui s'intéressent à ce qui n'a pas d'intérêt, qui sont toujours en train de déblatérer, de dire des choses qui détruisent. C'est ça que je veux dire. Ne passons pas notre vie à entreprendre des choses risibles, infantiles, futiles. Il y a tant à construire. Je répète, il faut rire. Faut pas pleurer. Moi, des moments, je dis, mais il y a de quoi pleurer. Faut mieux en rire. Faut mieux en rire. C'est un monsieur que les chrétiens ne citent pas souvent, qui s'appelle Nietzsche, qui a dit, si tu veux savoir qui est un bon philosophe, c'est-à-dire ami de la sagesse, si tu veux savoir qui est un bon philosophe, tu les mets tous en ligne, celui qui rigole, c'est celui-là le bon philosophe. Vous voyez, mes frères et sœurs? C'est ce que nous devons être, des philosophes, pas seulement des philosophes, mais des bons philosophes, des amis de la sagesse. Vous rapprochez de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mais c'est que le commencement! Après, il y a plein d'autres choses à voir, plein d'autres choses à faire. C'est passionnant. Nous sommes fils et filles de Dieu, pas simplement pour poser notre derrière dans une église le dimanche matin, mais pour vivre une vie passionnante. Et si nous ne vivons pas une vie passionnante, c'est que nous nous sommes trompés. C'est pas Dieu qui nous trompe, c'est nous qui nous trompons. Alors, sortons de ce mensonge et vivons les belles choses que Dieu a mises sur notre chemin, parce que ce qui va arriver là bientôt, c'est que nous allons être manifestés tels que nous sommes. Et ça, ça me réjouit. Waouh, la tronche que certains vont faire quand ils vont voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Jésus, je te prie de bénir ces personnes qui regardent cette vidéo en ce moment, de bénir ceux qui écoutent ce message sur Internet, de les bénir dans le sens qu'ils se rendent compte que c'est important et que c'est quelque chose d'essentiel et qu'il fasse fi de tout le reste. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu vous bénisse.